Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse. Vous savez que le rendez-vous, c'est de lundi à vendredi à partir de 11h sur votre radio. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée puisque nous y sommes. Bien sûr, hein, dans cette émission, nous y sommes. Et merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée. Le Tchad, une autre curiosité du continent africain, l'Assemblée nationale tchadienne a adopté lundi 15 décembre une révision de la Constitution allongeant la durée du mandat présidentiel de 5 à 7 ans sans limiter le renouvellement des mandats. Le texte présenté par le Mouvement patriotique du salut, MPS, parti de la majorité présidentielle, modifie plusieurs dispositions de la Constitution du 29 décembre 2023. Il a été adopté par les députés à une majorité écrasante par 171 voix pour, une voix contre et aucune abstention. Il doit encore être transmis au Sénat avant un vote final prévu le 13 octobre en congrès où une majorité de 3/5 sera requise pour acter cette modification. Le texte prévoit notamment que le président de la République soit élu pour un septennat et qu'il soit rééligible sans plus de précision, alors que la constitution actuelle consacre un quinquennat renouvelable une fois. Le projet de réforme constitutionnelle prévoit également la création d'un poste de vice-premier ministre et rallonge d'un an le mandat des députés qui passe de 5 à 6 à 6 ans, bien sûr. Le sujet nous intéresse au Club de la Presse et bien sûr nous allons en parler. Nous aborderons d'autres sujets liés à l'actualité de notre pays, le Togo, et tel qu'évoqué par des journaux parus aujourd'hui. Bien sûr, nous parlerons du continent africain sans oublier aussi le monde entier. Merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse de ce mercredi 17 septembre 2025 et bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou, Vito Guetomega était à la mise en onde. Jérôme Akouta assure la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéron, Radio La Paix à Takpamé, Central FM. Nous sommes à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sky FM à Badou et Sama FM à Baga près de Niamtougou et puis Radio Koktoazi à Dapan. Et là, vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Vous avez aussi ce privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes, notamment notre chaîne YouTube, aussi notre page Facebook, sans oublier notre site internet www.canalfm.com et aussi nos radios partenaires en ligne Ibn Radio et Radio Lébénin. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain. Et c'est avec mes confrères journalistes en studio avec moi. Nous sommes au mercredi. Et mercredi, l'équipe de mercredi est déjà en place. Sylvestre Béni, bonjour.
Oui, bonjour Pascal et bonjour à toutes et à tous.
J'espère que vous allez bien.
Comme poisson dans l'eau.
Comme poisson dans l'eau, ça fait plaisir. Là, quand on vous voit ensemble, justement, que vous allez bien comme un poisson dans l'eau, merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi, la précision que je tenais à faire, c'est pas dans n'importe quelle eau quand même. Ah bon? Parce que le poisson dans l'eau chaude, c'est autre chose.
Vous n'êtes pas dans l'eau chaude?
Non.
Vous êtes plutôt dans l'eau froide.
Voilà, le milieu privilégié donc d'un poisson.
Ah mais ça se sent justement, même quand on prend votre habit, moi on sent que vous êtes dans le milieu privilégié. Ah ben Sisaka, bonjour.
Ouais, bonjour.
J'espère que vous allez bien.
On rend grâce.
Vous n'êtes pas poisson dans l'eau?
Non, lui il parle de poisson dans l'eau chaude. L'eau chaude c'est que c'est pour le préparer. Donc un poisson est toujours dans l'eau fraîche. Oui? Il respire bien là-bas. Lorsque vous évoquez dit que vous ne voulez pas être dans n'importe quoi, mais si vous êtes tombé dans l'eau chaude, c'est que vous êtes...
Non, mais justement, si vous êtes dans l'eau chaude, ça veut dire que les ingrédients vont
pas du là. Oui, ça accompagne.
D'accord. Donc, c'est qui est sûr qu'il ne dit rien.
Il dit, nous, comme poisson dans l'eau là, ça suffit.
D'accord.
Pas
de
commentaires.
Lucien Nani, bonjour.
Pascal, bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Non, je ne vais pas bien ce matin.
Oh, décidément, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe?
Et je me suis réveillé
j'ai essayé de faire un exercice et je me raconte que ce régime a pris 20 ans de notre vie. Ça m'a touché énormément.
C'est-à-dire, c'est une analyse que vous êtes...
Je faisais un exercice et je me suis rendu compte que très rapidement, les 20 ans sont passés.
C'est quoi l'exercice?
Et sans que notre situation est toujours de cette façon-là, ça m'attriste. Ça m'attriste, sincèrement. Je le dis avec beaucoup de regrets. Vous le dites, certains diront que peut-être pourquoi je suis né au Togo, mais quelqu'un a eu à le dire. Nul ne choisit son lieu de naissance. Ça m'attriste. Mais permettez également que je fasse un coucou à notre cher confrère Peter Dobé de la radio RFI, correspondant bien sûr. Pratiquement, ça fait, je dirais même plus de 3 mois que la radio RFI et France 24 ont été coupées au Togo. Je ne sais pas comment il fait pour vivre cette situation. Normalement, depuis hier ou ce matin, on doit
c'est le 16 septembre.
C'est le 16 septembre, oui. Aujourd'hui, nous sommes le 17.
Normalement,
les signaux de ces deux chaînes devaient être allumés pour que mon confrère puisse quand même reprendre ses activités. J'ai une pensée en lui ce matin. Je suis tellement triste. L'autre tristesse, c'est également la disparition de M. Boigny Taka Serge le 13 septembre dernier. Je vous parlais de la situation de nos frères et de nos papas retraités de la TDE. Il fait partie de ce lot. Il est allé à la retraite le 1er janvier 2023. Il a eu à occuper plusieurs postes. Il a été également député avant de regagner encore la boîte. Caissier central de cette institution financière, malheureusement, après sa retraite, il souffrait de plusieurs pathologies. Il a même demandé à ce que le DG puisse quand même lui donner les moyens, l'assiste ou éventuellement le payer, ce qu'on appelle le retraite complémentaire. Mais malheureusement, il n'a pas eu gain de cause. Il a traîné cette maladie. Et finalement, le samedi dernier, on apprenait sa disparition. Ma pensée à sa famille, à ses enfants et à tous ses proches qui sont de la préfecture de l'Aquiran. Vous conviendrez avec moi que quand je faisais cet exercice ce matin, vous parlez des 20 ans qu'on a pris de notre vie. C'est vraiment quelque chose qui touche le cœur.
Merci, Justin Anani, d'avoir répondu à notre invitation. Gadiatou Nadi, bonjour.
Pascal, bonjour.
J'espère que vous n'êtes pas triste.
Bon, ça va.
C'est l'essentiel.
Oui, ça
merci
va.
D'avoir accepté notre invitation. Gadiatou, si vous êtes là, c'est parce que Santé Éducation est dans les kiosques ce matin. Et nous savons, vous savez bien le faire, hein, avec des pathologies, vous touchez des pathologies et vous nous donnez quand même l'alerte compte tenu alors d'un certain nombre de préventions que nous devons faire de ces sur ces pathologies. Et là, vous êtes revenu bien sûr cette campagne qui a été lancée tout récemment et surtout dans les formations sanitaires. Et cette campagne va concerner surtout les surcharges hospitalière. Vous écrivez surcharge hospitalière au Togo, à Gasto lance une campagne.
Oui, Gasto, c'est l'association des gestionnaires administrateurs des services de santé qui lance une campagne pour sensibiliser les populations par rapport à un certain nombre de réalités hospitalières. Ici, on parle de pyramide hospitalière. Vous savez, dans un pays, il y a plusieurs formations sanitaires. Et au niveau du ministère de la Santé, on les a hiérarchisées. Le top, c'est les CHU. Hein? Donc, c'est là-bas l'établissement de référence. C'est là-bas que les professeurs, les grands, en tout cas acteurs, travaillent et pour la prise en charge d'un certain nombre de maladies qu'on peut appeler de graves. Hein? Donc, c'est ça les CHU. Et au Togo, nous avons 3 CHU, 2 à Lomé et puis 1 à Kara. À part ça, il y a les CHR qui sont les hôpitaux au niveau des régions. C'est les plus grandes formations sanitaires au niveau de chaque région qu'on trouve à Tchévia, à Takwame, Bon, celui de Kpalime aussi est souvent classé comme, même si c'est un CHP, on trouve aussi à Sokodé, à Kara et puis à Dapan. Et normalement, dans ces régions, toutes les localités doivent référer les patients qui ont un certain nombre de pathologies plus graves vers ces centres. Et si au niveau des CHR, on n'arrive pas à prendre en charge ces personnes, on les évacue au niveau des CHU. Maintenant, à part ça, il y a les CMS, il y a les USP et tout ça, vous voyez. Donc, cette campagne amène cette association des acteurs de santé d'édifier la population sur où aller par rapport à un certain nombre de pathologies. Parce qu'il est remarqué que au niveau des CHU, les gens arrivent pour un problème de mal de tête, un simple problème de fièvre. Et tout cela fait qu'il y a une surcharge au niveau de cet hôpital, de ces hôpitaux de référence. Or, il y a des hôpitaux de référence qui doivent recevoir un certain nombre de pathologies un peu plus sérieuses. Et c'est ça un peu la sève de cette campagne. Une campagne qui est toutefois nécessaire. Mais il y a une réalité qu'il faut avancer au niveau des formations sanitaires, c'est que chaque hôpital ou bien chaque formation sanitaire doit se récupérer de cette campagne pour le faire, parce qu'aujourd'hui, chaque hôpital ou bien chaque formation sanitaire est amené à communiquer ce qu'on appelle la communication hospitalière. Mais très souvent, quand on va vers les centres de santé ou bien vers les formations sanitaires, on le propose cela, les gens pensent que c'est une question de publicité, non? Quand on prend par exemple un CHP à Kpalime par exemple, cet hôpital doit communiquer vers la population de Kpalime et ses alentours pour que la population soit au courant de ce qui se passe, de quels sont les soins et tout ce que vous voyez. Donc il y a toute une composition dans cette communication hospitalière à faire au niveau des formations sanitaires afin que les populations soient édifiées par rapport à leur déplacement, où aller ou ne pas aller par rapport à cette maladie. Voilà.
Oui, mais Gadel, c'est vrai que c'est surcharge au niveau surtout alors de des hôpitaux, des centres alors des santé de référence. Et souvent, et ces populations, des gens, quand même des patients qui vont parce que peut-être ils sentent que mais avec ces même ce que peut-être nous considérons comme des simples pathologies, ils pensent tout simplement que ce sont ces hôpitaux alors de référence qui peuvent traiter cela. Donc, il faudrait quand même qu'on mette l'accent sur la sensibilisation pour le dire, mais ça pourrait se faire également dans les centres alors périphériques.
Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Il faut que les gens comprennent que, par exemple, si je suis à Idogome, quand je sens une certaine fièvre, il faut que j'aille au CMS à Idogome d'abord. Est-ce que vous voyez? Non, au CMS d'Idogome.
Et qu'on le fasse comprendre aussi que le CMS d'Idogome a compétence à guérir, même ou du moins à traiter
sa maladie. Si cet hôpital n'a pas compétence, il va vous référer.
Oui.
Est-ce que vous voyez? Souvent, quand vous allez vers les CMS, vous allez voir qu'en même temps, disons, on va vous référer au CHU. Est-ce que vous voyez? Donc, eux, ils sont amenés à référer les pathologies qu'ils ne peuvent pas prendre en charge au niveau des CHU. C'est ça. Donc, il y a quand même ce manque d'informations au niveau de la population qu'il faut faire passer. Ça a trop duré à tel enseigne que c'est devenu une habitude pour nous. Bon, on espère que ce genre de campagne vont se répéter et la communication au niveau des formations sanitaires va arriver pour sensibiliser plus la population.
Gazelle, vous vous intéressez à l'obésité et vous écrivez obésité, nouvelle menace pour enfants et adolescents.
Absolument, vous savez Pascal, l'obésité devient un problème de santé publique assez poussé maintenant. Vous savez, dans le temps, on parlait des enfants qui sont nés de faible poids, des enfants qui ont une croissance, qui n'ont pas une bonne croissance, hein, la malnutrition, des tas de trucs, voilà. Mais aujourd'hui, c'est l'obésité chez les enfants de moins de 5 ans et au-delà. Parce que, il y a un problème actuellement, c'est au niveau de l'alimentation, hein. Et une grande étude a été faite, c'est l'UNICEF qui a publié les résultats, et il a été remarqué que même dans les familles pauvres, on devient obèse. Hein, ce n'est pas seulement au niveau des familles riches, même dans les milieux Bon, avant, on parlait plus d'enfants de faible poids, d'une croissance, d'une mauvaise croissance et tout, de la malnutrition. Là-bas, on grossit, on devient obèse.
Mais c'est toujours l'alimentation ou la mauvaise alimentation?
C'est la mauvaise alimentation, vous voyez, parce que aujourd'hui, les enfants sont plus tournés vers ce qu'on appelle les aliments transformés. Donc, même si vous êtes issu d'un milieu défavorisé, les parents font des efforts pour trouver ce genre d'aliments à leur enfant. Et très souvent, tout ce qu'on vend au bord de la route, c'est calorifique. Est-ce que vous voyez, toutes ces frites qu'on vend au bord de la route, que les enfants consomment, aiment consommer, que nous-mêmes les parents, nous leur achetons, c'est ça. Et puis ce qu'on prépare à la maison pour les enfants, vous allez voir que nous sommes tous ici des parents autour de cette table. Et si on fait une petite enquête, vous allez voir que la plupart de nos enfants n'aiment pas manger les sauces et légumes. Hein. Les enfants aujourd'hui, c'est ça. Sauces et légumes faites à des mains avec la pâte, ils ne sont pas intéressés, mais ils veulent voir un plat de maca avec mayonnaise là-dessus, saucisse. Donc vous voyez, ce genre d'alimentation conduit inexorablement vers le surpoids, vers l'obésité. Et des études, là, d'après le résultat que l'UNICEF a publié, en Afrique, en tout cas chez nous, dans la zone africaine, le surpoids et l'obésité cumulés, la prévalence est au-delà de 6%. C'est déjà grave. Hein. Donc, dans ce rapport, il est encore... les recommandations sont faites au pays de prendre des mesures, surtout au niveau alimentaire. Et puis, on sait que très souvent, nos enfants sont sédentaires. Hein. Surtout dans ces vacances-ci, les gens ils suivent la télé ou bien sur le portable. Donc, la sédentarité aussi, tout ça s'ajoute. Donc, il y a des mesures à prendre à la maison et il y a des mesures aussi à prendre au niveau des autorités afin que... mais tout cela, c'est l'éducation.
Justement.
Tout cela tourne autour de l'éducation, la communication qu'on doit faire. Aujourd'hui, l'école a commencé. Quels sont les messages qu'on peut ventiler au niveau des écoles pour que... l'alimentation des enfants soit une alimentation qui leur apporte la santé au lieu de leur apporter le support, l'obésité. On sait que c'est le lit des troubles cardiovasculaires. Donc, en tout cas, un article à lire.
C'est justement un article très important à lire. Et bien sûr, vous parlez des élèves, puisque les élèves ont repris hein, les classes tout récemment. C'était le lundi dernier. Et là, vous faites bien de leur proposer aussi des recettes ou des aliments ou une alimentation quand même qui pourra leur donner de l'intelligence. Hein. Et donc, vous écrivez santé et intelligence de l'élève, alimentation. Ça, c'est le titre que je vois à la une alors de votre journal.
Absolument. La manchette de cette parution, c'est. Ouais. J'ai dit la manchette, j'ai vu l'autre oui. bouger.
Pas parler alors de la manchette comme journal.
Voilà, la manchette de santé-éducation, c'est un titre carrément adressé aux parents d'élèves et aux élèves, hein, parce que l'alimentation de l'enfant vaut sa santé et sa capacité à bien travailler à l'école. Est-ce que vous voyez? Vous savez, quand on en parle, il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas un lien entre l'alimentation et l'intelligence, c'est faux, et la capacité cognitive de l'élève. On a fait une étude et dans un certain nombre de pays occidentaux, il a été remarqué que les enfants qui mangent bien, qui ont une alimentation équilibrée, ont un quotient intellectuel un peu plus élevé. Est-ce que vous voyez? Donc, mais les enfants qui mangent mal, qui sont plus tournés vers les aliments transformés et tout, ont une santé fragile. Parce qu'ils sont en surpoids, en obésité, on vient d'en parler, et ils n'ont pas une capacité cognitive assez bien. Donc, cela crée des problèmes dans le cursus scolaire. Donc, aujourd'hui, il faut bien nourrir les enfants pour qu'ils aient la santé d'abord. Donc, ça veut dire que l'enfant se lève chaque jour, il est en bonne santé pour aller à l'école et revenir. Et puis, quand il a la santé, il peut s'asseoir et apprendre les cours et aller composer. Vous voyez, il y a des enfants, c'est pendant la composition qui tombent malades, pendant les années qui tombent malades. Donc, l'échec scolaire, des fois chez l'enfant, cela peut, une cause aussi peut venir de quelle alimentation on donne à l'enfant. Est-ce que vous voyez? Donc, dans cet article, les experts proposent un certain nombre de menus, en tout cas de chez nous. Qu'est-ce que l'enfant doit manger le matin et voilà, à midi, le soir, quels sont les aliments que l'enfant doit prendre pour entretenir sa capacité cognitive et puis sa santé. Là, c'est très important.
Oui, mais quand vous parlez alors de menu, il y a aussi les cantines scolaires dans les établissements scolaires bien sûr. Et quand vous parlez alors de menu, ces cantines scolaires proposent des menus aux élèves. Et là, vous revenez bien sûr sur ces cantines scolaires. Vous écrivez cantines scolaires bien nourrir les enfants.
Absolument. Vous savez, Pascal, les cantines scolaires, vous savez, c'est le restaurant par excellence des élèves. Mmh. Et la plupart des enfants aujourd'hui font leur petit déjeuner à l'école et leur déjeuner à l'école. Les enfants, des fois, le dîner même, ce n'est pas ça. Hein? Donc, les cantines scolaires doivent être bien entretenues. Est-ce que vous voyez? Je ne sais même pas si au niveau du ministère des enseignements, si on doit créer même carrément une direction pour voir ce côté défini des normes, parce que ce qu'on propose aux enfants là-bas, cela va déterminer leur santé et leur capacité cognitive. Donc, au niveau des cantines scolaires, c'est toute une science. Hein. Faut pas seulement que, bon, il y a une femme qui est à côté de l'établissement qui veut vendre, je sais pas quoi, et on l'amène, elle vend, ou bien j'ai ma femme, un enseignant à sa femme, le directeur à sa femme, et puis on fait du n'importe quoi, on la met dans une cantine, les enfants mangent. Vous savez, pendant les vacances, il y a des études qui sont faites, et pendant les vacances, les enfants sont plus en bonne santé. Mais quand ils reprennent l'école, vous allez voir, mal de ventre, ceci, cela, vomissement, parce que la plupart du temps, ce qu'on leur propose dans les cantines scolaires, ce n'est pas ça.
L'alimentation en est pour quelque chose.
Voilà. Dans le temps, vous savez, dans le temps, et ces femmes qui faisaient la cantine, qui animaient la cantine, avaient un carnet de santé bien suivi. Les acteurs passaient pour suivre un peu ce qu'ils mangent. Dans certains établissements même, il y avait un comité d'élèves et d'enseignants qui faisaient les dégustations. Et
justement, je le sais.
Et voilà. Et si ce que vous avez préparé le jour n'est pas bon, on vous demande de ramener ça à la maison.
Oui, oui, oui.
Et ce, vous voyez. Donc, au niveau du ministère de l'Éducation, des enseignements, on n'a pas pris l'information, mais on doit créer une direction pour gérer la cantine scolaire. Vous savez, l'État a créé ce projet de cantine scolaire. Pourquoi? C'est parce qu'on a remarqué que, bon, pour ces enfants, ils ne trouvent même pas à manger. Mais le problème, il est réel. Même en ville, ce qu'on propose aux enfants. Vous savez, quand les enfants viennent, tout ce qu'ils mangent, c'est calorifique. Tout ce qu'ils mangent, c'est calorifique. C'est du sucre, c'est du calorifique. Cela n'est pas bien pour leur santé. Donc, la cantine scolaire, c'est très important pour la santé des enfants. Et il faut bien nourrir les enfants dans les cantines scolaires.
D'accord, il faut bien nourrir les enfants dans les cantines scolaires. Je pense que le message est passé. Et pour plus d'informations, bien sûr, il faut juste alors avoir le journal Santé Éducation paru aujourd'hui. Quelles sont les conditions, rapidement?
Bon, acheter dans les kiosques en pharmacie à 500 francs.
D'accord.
Voilà.
Merci, Gadiel Tonadi, d'être passé dans cette émission. Alors, sans transition, nous recevons professeur agrégé, bien sûr, à Franville, Kossivi, à Belenko. Professeur, bonjour.
Bonjour, Pascal.
J'espère que vous allez bien.
Nous rendons grâce à Dieu, nos ancêtres et la nature.
Justement, professeur, vous êtes justement professeur agrégé de gestion des systèmes de santé et directeur du centre d'excellence en qualité et sécurité des soins. Et aujourd'hui, nous vous recevons pour parler alors de la journée mondiale de la sécurité des patients et patientes 2025, et bien sûr. Alors, quand on parle de cette journée, qu'est-ce que c'est?
Ok. Merci beaucoup, Pascal, pour l'opportunité. Merci aux journalistes, aux animateurs, aux techniciens pour l'excellent travail que vous faites pour permettre à la population de recevoir les bonnes informations. Disons que la journée mondiale de la sécurité des patients et des patientes est une journée qui a été décidée par l'Organisation mondiale de la santé pour 1. Informer la communauté sur la notion très importante de la sécurité des patients. Deuxième élément également par rapport à cette journée, c'est pour fédérer les actions qui concourent vers la sécurité des patients et enfin une occasion non seulement de sensibiliser mais d'éduquer les gens, d'amener les décideurs à considérer la sécurité des patients comme un véritable problème dans nos établissements de santé.
Professeur, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude alors d'écouter parler de cette journée, c'est-à-dire la journée mondiale de la sécurité des patients et des et patientes. Hein. Et sincèrement, je ne sais pas si potentiels patients que nous sommes tous ensemble, nous maîtrisons même cette journée. Mais c'est quoi l'importance alors de cette journée?
Oui, je viens de le dire. Si nous analysons un tout petit peu les problèmes que nous avons dans la prestation des soins, nous allons en parler tout à l'heure. La sécurité, donc les problèmes liés à la sécurité des patients sont énormes. Et donc, cette journée a été décidée pour que les nouvelles orientations qui permettront d'améliorer donc l'état de sécurité et d'améliorer la qualité des soins dans nos établissements de santé, que ces nouvelles orientations-là soient transmises, comme on va le dire, et à partir de là, une série d'actions sont menées, particulièrement pour cette année où le thème tourne, le thème tourne autour de la santé des enfants, et vraiment le slogan concerne les enfants. Donc, brièvement, c'est ce que je peux dire sur l'importance de la sécurité des patients dans les établissements de santé.
D'accord. Oui, mais docteur, moi j'ai envie de vous poser la question. Pourquoi dit-on que la sécurité des patients et patientes commence dès la naissance?
Merci. Disons que la sécurité des patients commence dès la naissance parce que d'abord, chaque enfant a droit à des soins de santé sûrs et de qualité, et ce, dès la naissance. Pourtant, les nouveau-nés et les jeunes enfants sont exposés à des risques plus élevés en raison de leur développement rapide, de leurs besoins sanitaires en constante évolution et des profils de maladies qui les touchent. Si on prend les enfants, surtout les enfants de moins de 5 ans, il y a beaucoup de maladies, surtout les maladies infectieuses qui les touchent parce que justement, leur système immunitaire est en train de se développer. Ces enfants ne peuvent pas faire entendre leur voix, et ce sont donc les adultes qui parlent en leur nom et prennent des décisions pour eux. Ils peuvent également faire face à des difficultés supplémentaires selon la situation socio-économique, par exemple, ne pas pouvoir obtenir les soins dont ils ont besoin, ces facteurs les rendent plus vulnérables. Donc, en réalité, les enfants, surtout les enfants de moins de 5 ans, sont plus vulnérables que les autres. Et un seul incident de sécurité peut avoir des conséquences durables sur la santé et le développement d'un enfant. Donc, cet incident qui touche l'enfant à la naissance aura des répercussions peut-être sur toute la vie de cet enfant-là. Nous voyons donc que fondamentalement, la question de la sécurité des patients commence dès, je dirais, la naissance même de tout individu.
D'accord. Oui, mais déjà, quand on prend cette journée où on prend la sécurité surtout des patients, et notamment des nouveau-nés, quels sont les principaux risques ou défis en matière de sécurité des soins alors pour les nouveau-nés et les enfants?
Merci beaucoup. D'abord, nous prenons, nous, médecins ou agents de santé, nous prêtons un serment. Oui. Tous les médecins, nous prêtons le serment d'Hippocrate. Et le serment d'Hippocrate affirme tout d'abord ne pas nuire. Primum non nocere. Et primum non nocere, tout d'abord ne pas nuire, c'est le principe de non-malfaisance. Et donc, ce principe de non-malfaisance est fondamental pour garantir la sécurité et la qualité des soins. La sécurité des patients, nous définissons ça très rapidement comme la prévention des erreurs et des événements indésirables liés aux soins de santé. Dans le jargon de la sécurité des patients, nous avons ce qu'on appelle les dangers, c'est-à-dire les situations qui sont potentiellement préjudiciables, oui. Les risques que nous définissons comme étant la probabilité qu'un événement indésirable spécifique se produise dans un délai précis. Nous nous concentrons pour aujourd'hui, dans la catégorie des risques cliniques, c'est-à-dire la probabilité qu'un résultat indésirable résulte d'une investigation clinique, donc des soins quoi, d'un traitement ou des soins prodigués aux patients. Partant de là, concrètement, nous savons que les événements indésirables touchant les enfants en milieu de soins ont une prévalence d'un tiers. Donc, un enfant sur trois hospitalisé a des risques donc liés aux soins. Et ces risques, on en catégorise classiquement quatre qui touchent les enfants.
Oui.
Nous avons les infections nosocomiales, c'est-à-dire les infections qui sont contractées au cours des soins. Nous avons les complications liées aux dispositifs médicaux, les perfusions intraveineuses qui sont faites, les autres tubes que nous utilisons en milieu de soins, les moniteurs que nous utilisons en milieu de soins. Nous avons les complications chirurgicales et les complications liées à l'accouchement. Donc, par exemple, pour le travail d'accouchement, nous utilisons on a les traumatismes liés donc à l'accouchement. Nous utilisons le forceps.
Oui.
C'est des techniques, c'est des matériels que nous utilisons pour disons extraire l'enfant, le forceps. Nous utilisons également les ventouses et ces éléments ont également entraînent, si ce n'est pas très bien fait, des traumatismes qui sont préjudiciables, qui entraînent des blessures sur les enfants. Nous avons un dernier élément, les erreurs dans la prise en charge. Et franchement, à ce niveau, ce sont les erreurs médicamenteuses qui sont les plus nombreuses. Et pour ce qui concerne les erreurs dans la prise en charge, nous avons les erreurs de diagnostic,
oui,
les erreurs de traitement, les erreurs de surveillance. Et les erreurs également dans la même quand on veut poser un dispositif médical, par exemple, on veut mettre un cathéter, il y a des erreurs qui sont faites même lors de la pose de ces dispositifs médicaux. Voilà, ramasser la catégorie des erreurs qu'on a. C'est vrai qu'on a d'autres erreurs.
D'autres erreurs.
Voilà. Mmh. Les erreurs, par exemple, la non-reconnaissance des signes avant-coureurs d'une maladie et les anomalies congénitales que nous ne classons pas comme erreurs. Mais ce sont des risques également. La prématurité, c'est un risque également pour les enfants, pour toutes les maladies que nous connaissons.
Mmh.
Voilà.
Mmh, professeur, quelles sont les mesures qui sont prises, les mesures prioritaires surtout, à mettre en place pour garantir des soins sûrs aux enfants et aux nouveau-nés?
Oui, les travaux qui ont été faits nous permettent de catégoriser ces mesures-là sous cinq objectifs. Nous avons d'abord le premier objectif dont la finalité est d'impliquer les enfants, les parents et les familles. Parce que beaucoup de choses peuvent être évitées si les parents, la famille avaient des informations basiques sur la conduite à tenir devant tel signe, telle chose, et si les parents étaient capacités à réagir, ça voudrait dire que à courir vers une structure de soins à temps. La seconde mesure, ça nous concerne tous, c'est d'améliorer la sécurité des médicaments. Parce que nous l'avons dit tout à l'heure que vraiment, une grande partie concerne les erreurs médicamenteuses.
Mmh.
Donc, on doit améliorer la sécurité des médicaments. On doit améliorer également la sécurité du diagnostic. Quand nous allons dans les établissements de santé, dans les structures de soins, il faudrait que les diagnostics, qu'on réduise les risques d'erreurs liées au diagnostic. Le quatrième objectif, c'est de prévenir les infections associées aux soins de santé. Quand on va dans les établissements de santé, très, très fréquemment, il y a ce que nous appelons les maladies nosocomiales, les infections nosocomiales, quoi. Mm. Tu vas pour un problème de santé et tu as une infection qui, en réalité, tu ne l'avais pas au départ, c'est lié à ta recherche de soins dans l'établissement de santé. Donc, il faut prendre également les mesures pour réduire, pour prévenir ces infections. Mmh. En dernière position, c'est de réduire les risques pour les nouveau-nés et les petits-enfants malades. Tous les risques dont nous avons parlé. On sait aujourd'hui que plus de 80% de ces risques sont évitable. Mmh. Et donc, si nous nous référons aux grands penseurs comme Deming qui nous disent que 96% des problèmes liés à la qualité sont des problèmes systémiques. Et donc, c'est des problèmes qu'on peut éviter dans le domaine de la santé également, nous pensons. Et nos travaux nous ont permis de conclure que, effectivement, 96% des problèmes liés à la sécurité sont des problèmes que nous pouvons éviter.
Oui. Et là, il nous faut alors des mesures que nous devons prendre pour que justement ça soit évité. Alors, professeur, en un mot ou en une phrase, si vous pouvez résumer tout ce que nous venons de dire, qu'est-ce que vous allez dire?
Merci beaucoup. Je dirais ceci. Les problèmes liés à la recherche des soins, que nous appelons des événements indésirables liés à ces soins, ne sont pas des problèmes qu'on décrit seulement dans les pays développés ou dans les grands pays. Ces problèmes existent également chez nous. Les mesures qui sont efficaces dans les pays développés le sont également chez nous. Et nos travaux faits dans les environnements togolais montrent que ces mesures sont efficaces. Il faut juste que, un, les dirigeants des établissements de soins décident que la qualité et la sécurité est leur priorité et qu'ils mettent les moyens. On obtiendra les résultats. À coup sûr, on pourra vraiment réduire de 96% ces infections associées, ces problèmes plutôt associés à la recherche de soins dans les établissements de santé.
Ce qui veut dire que la balle est dans le camp des responsables alors de ces centres sanitaires pour que du moins des mesures soient prises pour arriver à éviter justement ces risques.
C'est bien ça. Oui, la balle est dans leur camp. Quand je dis dirigeant, je ne veux pas seulement dire le directeur de la structure.
Tout à fait.
Voilà. Mmh. Voilà.
Et même quand on parle de dirigeant, je pense même d'ailleurs qu'on va jusqu'aux autorités et tout.
Voilà. Et par exemple, dans les établissements de santé, on devrait avoir des directions médicales. À l'heure actuelle, dans les établissements de santé publics au Togo, nous n'avons pas de direction médicale. Alors que le job du directeur médical, c'est fondamentalement ça. Et au sein donc de la direction médicale, nous avons les équipes de gestion des risques. À l'heure actuelle, nous n'avons pas ça dans les établissements de santé. C'est vrai que des efforts sont faits par-ci, par-là, mais l'absence de cette direction médicale dans les établissements de santé au Togo est un, je vais dire, contribue à ce que le problème ne soit pas vraiment pris à bras le corps.
Mmh. Voilà. D'accord. Mmh. Merci beaucoup, professeur. Hein, et là, je vous demanderai, alors je souhaiterais que vous restez avec nous pour que déjà à partir de midi, le principe de l'émission, c'est que des auditeurs posent des questions ou certainement par rapport à votre intervention, ils vont poser alors des questions. Je rappelle que vous êtes professeur agrégé à Fanvi, à Kosivi, à Gbelenko. Vous êtes professeur agrégé de gestion des systèmes de santé et directeur du centre d'excellence en qualité et sécurité des soins. Et nous avons bien sûr parler de la journée mondiale de la sécurité des patients et patientes bien sûr 2025. Alors chers confrères, on revient en studio et là pour notre débat, et c'est vrai que Gadiel parlait tout de suite alors de la rentrée scolaire, on sait Sylvestre, on sait que c'est déjà le 15, hein, c'est-à-dire le lundi, et parlant de la rentrée, il y a beaucoup de journaux bien sûr qui sont revenus hein, sur cette rentrée avec les différentes réformes pour cette rentrée. Il y a le messager qui écrit « Togo, rentrée scolaire 2025-2026, une reprise sereine et sécurisée » avec à la une la photo du professeur Kokoloko avec qui est allé alors chez des élèves pour constater justement cette rentrée. Alors, Sylvestre, on pourra dire que cette rentrée a été effectuée dans la sérénité?
Oui, c'est le rituel depuis quelques années, la rentrée. Et c'est vrai que il fut un moment où les rentrées sont souvent reportées à quelques jours ou à quelques semaines donc de l'ouverture officielle. Mais depuis un moment, il y a d'abord une rentrée pédagogique pour les enseignants et ensuite il y a la rentrée effective donc pour les apprenants. C'est ce que nous avions vu la dernière fois avec la nouvelle disposition de l'État togolais consistant donc à mettre des forces de sécurité dans les alentours ou presque au portail donc, de certains établissements. Mais comment on peut expliquer cela? Il parle donc de sécuriser la rentrée. Vous n'êtes pas sans savoir que il y a quelques semaines, certains avaient quand même annoncé que ils vont prendre des dispositions, ne serait-ce que pour que la rentrée soit un peu bousculée. Donc voilà, et en retour, donc l'État a pris cette disposition. On ne peut que s'en tenir à cela. Et on a vu également sur les images le ministre en charge de ce secteur sillonner quelques établissements. Donc c'est effectif depuis lundi. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Donc la rentrée a bien démarré. Nos enfants, les apprenants sont en classe. Et on souhaite donc le meilleur pour tout le monde. Et à la fin, qu'on ait les résultats escomptés.
À la fin, qu'on ait justement les résultats escomptés. Ah ben, c'est vrai que je vous ai vu quand Gadiel parlait de l'alimentation, surtout avec les élèves. Je vous ai vu, vous faisiez justement la tête pour dire justement que c'est bien confirmé par rapport à l'alimentation, surtout avec les cantines scolaires. C'est vrai, vous écrivez par rapport à la rentrée hein, ce matin, vous écrivez rentrée scolaire 2025-2026 au Togo, l'irresponsabilité des appels à la perturbation de l'année. Et là, quand vous parlez alors de l'irresponsabilité, surtout alors des appels à la perturbation de l'année, vous voulez faire allusion à quoi, Abbas?
Non, vous savez tout de suite là, il y a Sylvestre qui a évoqué certains faits par rapport au fait qu'il y a la mobilisation de forces de l'ordre et de sécurité à tous les niveaux même de la capitale, parce que déjà, il y a des vidéos qui ont circulé. Ils ont demandé aux parents de ne pas acheter la fourniture à leurs enfants parce que la rentrée n'aura même pas lieu. Tout se fera pour que cette rentrée n'ait pas lieu.
Appel lancé par qui?
Appel lancé. Bon, c'est sur les vidéos, ça est là. C'est ceux de la diaspora qui ont lancé ça, comme d'habitude, comme ce fut le cas. Lors des appels à manifester des juin et août dernier. Donc c'est dans ces conditions on a encore appelé, on demandait aux parents de ne pas acheter, d'arrêter d'acheter la fourniture parce que cette rentrée-là n'aura pas lieu. Donc le gouvernement qui a la charge, celui de protéger la population, de protéger les élèves pour une rentrée sereine, a pris soin sur lui aussi de prendre des mesures pour que cette rentrée-là puisse avoir lieu. Donc, et finalement, on a vu avec le positionnement et les mesures qui sont prises par le gouvernement, on a vu que la rentrée s'est déroulée normalement parce qu'auparavant même, les gens avaient pensé que la mobilisation de ces forces de l'ordre au niveau des établissements, aux alentours des établissements scolaires et même dans l'enceinte, pourrait provoquer une panique au niveau des élèves qui vont avoir peur de gagner leur classe. Mais finalement, bon, nous sommes au troisième jour de la rentrée scolaire. On voit que, comme d'habitude, depuis quelques années, je pense depuis 3 ou 4 ans, les rentrées se déroulent normalement. On n'a pas cherché à reporter cette rentrée. Parce que déjà, avant même la rentrée, il y a certains qui avaient commencé par dire que cette rentrée-là va être encore reportée. Mais depuis l'arrivée du ministre Kokoroko, tout était mis dans l'ordre. Et que, avec les rentrées pédagogiques qui sont faites, ou la rentrée académique est préparée avec les enseignants, comment repartir les enseignants dans les établissements, comment entamer cette rentrée. Nous avons vu que depuis quelques années, les rentrées se déroulent de façon sereine et que nos enfants qui sont maintenant à l'école vont à l'école dans de bonnes conditions. On espère que cette sérénité puisse aller parce qu'il s'agit des enfants, de l'éducation de nos enfants. Il faut qu'on leur souhaite une bonne chance et une bonne suite pour qu'au moins ils soient tranquilles dans l'étude qu'ils sont en train de faire. Donc, parce que la réussite démarre déjà dès le premier jour de la rentrée.
D'accord. C'est vrai que avec Gadiel, j'évoquais même le sujet de l'alimentation de nos élèves. Et c'est vrai, après avoir effectué la rentrée dans la sérénité, il est très important quand même qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce que nos élèves mangent à l'école.
Oui, je pense que c'est à ce niveau-là que le débat doit être mené aujourd'hui. Sinon, au-delà de tout ce qu'on a vu là, les dispositions qui sont prises par les pouvoirs publics, le positionnement des dispositifs de sécurité un peu partout, je crois à mon sens que ça peut poser de problèmes. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la franchise universitaire. Lorsque vous mettez les corps habillés et dans les environs des enfants qui, dans les dernières périodes aussi, on a vu le traitement qui leur a été réservé lors des manifestations. Moi, je me dis que le débat est ailleurs. C'est pas parce que il y a un mouvement qui s'appelle M66 aujourd'hui et qui constitue pratiquement l'épouvantail pour le régime. La fois dernière, le Togo devait jouer contre le Soudan. On a vu le dispositif qui a été mis parce que le mouvement M66 a appelé peut-être à manifester après le match ou bien au cours du match. Bon, on a vu. C'est le même mouvement où les acteurs ont appelé et à ce que la rentrée puisse être perturbée et très rapidement, on a vu les mesures qui sont prises. Au-delà de toutes les considérations, la question que vous avez posée est la bienvenue. Pour la simple raison que il faut tenir compte de ce que nos enfants mangent à l'école. Les réformes, peut-être que c'est discutable sur un certain nombre de volets. Mais ce que les enfants mangent à l'école, c'est à ce niveau-là que le débat se pose réellement. Parce que la plupart du temps, quand les enfants reviennent de l'école, on a mal ici, on a mal au ventre, on a mal à la tête. On se pose énormément de questions. Je pense que si réforme devait y avoir, c'est également à ce niveau qu'on doit quand même penser véritablement. Maintenant, le reste, c'est la question de savoir si c'est au niveau de tous les établissements publics ou privés où on retrouve les corps habillés ou les dispositifs. Je dis non. Les Togolais sont si tellement intelligents et ils savent ce qu'ils veulent. Même vis-à-vis de ce combat contre le régime qui est mené aujourd'hui, les gens sont fatigués. Et je ne pense pas que c'est au cours de la rentrée et qu'il va y avoir de perturbations à ce que les enfants ne puissent pas aller à l'école pour apprendre et devenir quelqu'un comme un monsieur a l'habitude de le dire. Mais je pense que la rentrée est d'accord. Mais qu'est-ce qu'on met dans la rentrée? Qu'est-ce qu'on met dans l'éducation? Qu'est-ce qu'on met dans l'enseignement? Quelles sont les réformes qu'on a apportées? Et quels sont les avis également des parents? Parce que c'est très important aussi. Ce sont là les éléments auxquels il faut quand même tenir compte lorsqu'on veut quand même véritablement analyser cette rentrée. Mais le reste, je constate que aujourd'hui, là où passe le M66, le gouvernement ou les pouvoirs publics aussi passent par là. Et ça veut dire que ça devient maintenant le jeu Jacques Ouattu. Me voici. Mais on attend de voir la suite.
D'accord, on attend de voir la suite. On va s'intéresser à cet autre sujet. Sylvestre, on s'intéresse à cette tension entre l'État togolais et l'Union européenne, ou notamment le Parlement européen, et par rapport justement à cette question alors de détention des prisonniers politiques. Et là, il y a le journal La Dépêche qui revient sur le sujet. La Dépêche écrit « Déclaration du Parlement de l'Union européenne sur les détentions arbitraires ». Au Togo, le ministre Doucet convoque l'ambassadeur de l'Union européenne pour ingérence. Autre journal qui s'intéresse bien sûr au sujet, c'est bien votre journal La Manchette. La Manchette qui écrit « Affaire Aziz Gomen, l'amusante colère de Lomé contre l'Union européenne ». Alors là, vous pensez tout simplement que c'est justement une colère amusante?
Non, justement, ça amuse les Togolais, vous savez, depuis le vendredi dernier. Que nous avions eu le rapport, la résolution du Parlement européen sur les détenus politiques, notamment sur le cas d'Aziz Agouman. Et dans le rapport, le Parlement, où les eurodéputés ont un peu généralisé en demandant à ce que la justice togolaise soit beaucoup plus indépendante et ils appellent également l'état de droit. Et depuis lors, il y a beaucoup de choses qui s'écrivent ici et là. Il y a eu beaucoup de littérature. Et certains même vont jusqu'à déclarer que, puisque le ministre, le chef de la diplomatie togolaise a reçu le représentant résident de l'Union européenne au Togo, et certains vont jusqu'à déclarer que ce représentant est convoqué, par l'OMÉ pour des explications. Vous voyez, lorsque vous regardez, à y regarder de près, c'est-à-dire qu'on donne l'impression que c'est l'Union européenne qui a ouvert la boîte à Pandore et que désormais tout le monde peut accuser donc le pays de tous les péchés d'Israël. Je dis non. Vous savez, le premier projet conduit par le premier gouvernement de M. Fonya Singbe, c'est justement un projet qui a été financé par l'Union européenne et ses partenaires. Le programme de modernisation de la justice, c'est le premier projet donc du premier gouvernement donc de M. Fonya Singbe, puisque ça a commencé donc de 2005 à 2010. Et vous savez combien de fonds ont été jetés dans ce programme? 10 milliards de francs CFA. Alors, quand l'Union européenne mettait donc ces 10 milliards, il n'y avait pas de gérance. C'est-à-dire que lorsque on éjectait, aujourd'hui, si vous avez certains bureaux donc de la justice, climat, il y a eu des ordinateurs, tout ça, c'est grâce à ce programme-là. Si vous allez peut-être dans certains commissariats où il y a du matériel informatique et tout ça, c'est grâce à ce programme-là. Donc, 10 milliards de francs CFA, lorsque eux, ils mettaient les 10 milliards, il n'y avait pas d'ingérence. Maintenant, lorsqu'on leur demande maintenant d'avoir donc un bon comportement, ils parlent donc d'ingérence. Et, au-delà même donc de ce rapport, je voulais faire observer que l'Union européenne n'est pas la première entité étrangère à demander à ce que la justice togolaise soit indépendante. Allez lire le rapport donc du HCDH de décembre 2013 sur la justice togolaise. Il est clairement dit, c'était au temps donc de Madame Igeola Tokoumbou. Allez lire ce rapport de décembre 2013. Le rapport là dit clairement que sur des sujets dits sensibles, c'est ce que j'ai dit, est précisé dans le rapport, que sur des sujets dits sensibles, il y a des magistrats qui vont voir donc le ministère de la justice pour savoir l'orientation à donner. Le rapport HCDH, décembre 2013. Mais au-delà, il y a eu d'autres qui ont... lorsque vous prenez cet ingénieur français qui est passé par ici dans le cadre donc de la fête d'escroquerie internationale, Loïc Lefort-Pigeon. Mais Loïc Lefort-Pigeon, partout, il disait qu'il n'y a pas de justice au Togo. Il a été reçu chez nos confrères de l'Africa numéro 1 dans le débat, le grand débat de nos confrères Francis Laloupo. Il a dit... il n'y a pas eu justice au Togo. Que s'il y a un juge, c'est le chef de l'État. Et lorsque vous prenez même son ouvrage, le mouton noir, les 40 ans dans les coulisses de la République, vous prenez cet ouvrage-là de la page 24 à 34, mais c'est de bonnes feuilles sur le Togo. Il a relaté ça dans une judiciaire au Togo et tout. Donc, lorsque vous prenez tous ces éléments-là, et même, je peux même aller au-delà, prenez donc je peux même l'appeler un brûlot. Prenez donc le courrier que l'avocat français, là, comment il s'appelle déjà, et Maître Christian Charrier-Bounazel, un des avocats de Kwasi Nyasimbe, ce qu'il avait écrit à l'époque sur la justice togolaise. Et il a même dit, en parlant donc des magistrats, il disait, dans ce qu'il a écrit, qu'un jour l'histoire va amener à juger les juges. C'est ce que Charrier-Bounazel a écrit, qu'un jour l'histoire amènera à juger les juges. En parlant donc des magistrats. Donc il y a tellement donc de personnes qui ont reproché un certain nombre de choses à la justice togolaise. Et donc ce n'est pas le Parlement européen qui est donc la première entité à se prononcer sur le sujet. Aujourd'hui, on a eu toute une littérature. Quand ils envoyaient donc les 10 milliards, il n'y a pas d'ingérence. Maintenant, on vous dit de changer, vous parlez d'ingérence. Maintenant, on dit, bon, le Togo convoque l'ambassadeur. Mais écoutez, soyons sérieux entre nous.
Mais là,
vous pensez que...
Il a dit que le pays est souverain.
Ah bon, le pays est souverain, mais quand vous donnez l'argent, vous n'étiez pas souverain. Quand vous allez donc demander, vous savez, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Fais les si tu vas voir. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Donc, la personne qui... Vous pensez que en éjectant ces 10 milliards, l'Union européenne n'a pas des rapports après sur le programme? Mais s'il passe, ça veut dire qu'il parle en connaissance de cause. Voyez-vous, moi, je pense que lorsqu'on vous dit que vous êtes vilain, c'est parce qu'il n'y a pas de traces pour vous dire que vous êtes beau. Voyez-vous? Donc, le mieux à faire aujourd'hui, c'est que moi, je pense qu'on doit prendre sportivement ces recommandations, cette résolution de l'Union européenne, et donc changer beaucoup de choses. Mais lorsqu'on muscle, on dit non, on convoque, nous tous qui sommes sur ce plateau-là, Hein, peut-être que le docteur n'est pas dedans. Nous, toute la journaliste qui sont ici, nous savons que le Togo et l'Union européenne ne sont pas des camarades. Et ça, nous le savons. Le Togo et l'Union européenne ne sont pas des camarades. Donc, lorsqu'on dit oui, on convoque l'ambassadeur, moi je veux bien qu'on puisse me dire oui, le chef de la diplomatie togolaise a invité hein, le représentant résident du Togo pour donner sa version des faits. C'est encore mieux.
Mais si on lui a demandé des explications.
Mais si vous voulez convoquer. Maintenant, vous savez, il y a RFI qui a été suspendu par le Togo, n'est-ce pas?
Oui.
Et France 24. Mais suspendu également la coopération avec l'Union européenne. Là, on sait que vous êtes garçon.
D'accord. Ok, merci. Oui, Abbas Issaka, quand on prend cette résolution de l'Union européenne, du Parlement européen, est-ce que le Parlement n'a-t-il pas raison quand même de demander la liberté ou la libération est pure et simple alors de Aziz Goma, puisque il y a la Cour de la justice de la CEDEAO qui s'est déjà prononcée sur le sujet et a condamné l'État togolais.
Oui, le Parlement de la CEDEAO.
Non, le Parlement de
la Cour de justice de la CEDEAO. Oui.
Maintenant, c'est l'Union européenne qui se réunit pour parler.
Justement,
de ça.
Oui.
Ils ont parlé de ça. Bon, selon les informations que nous avons par rapport à cette convocation au niveau du ministère des Affaires étrangères, c'est que l'Union européenne, le Parlement européen, c'est sur la question de Aziz Goma. C'est sur la question de Aziz Goma que l'ambassadeur a été reçu par l'ambassade de l'Union européenne. A été reçu par le ministre des Affaires étrangères.
Mais il a été convoqué.
Bon, on nous refuse de parler de convoqué.
D'accord.
Il est là.
Qui vous... Non, moi, je n'ai pas refusé. Mais je vous dis, lorsqu'on observe bien les choses,
c'est pas
convocation. Hein?
Donc, moi, j'ai dit, c'est convocation.
Mais on l'a demandé,
je suis en train de venir.
D'accord.
C'est ta question. Parce qu'on l'a convoqué pour avoir les informations, les explications par rapport à cette résolution prise par le Parlement européen. Sur le fait que Aziz Goma n'a pas eu un jugement équitable. Or, selon les explications que nous avons, c'est que le jugement, Aziz Goma a eu droit à un procès équitable qui l'a condamné à 10 ans de prison. Et si tout va bien, c'est qu'en 2028, il doit sortir parce qu'il a déjà passé un certain nombre d'années de détention à la prison civile de Lomé. Donc, lorsqu'il était malade également, il avait droit à des soins et à certaines situations.
Il a été jeté en prison le 21 décembre
2018.
Donc, si tout va bien, c'est qu'en 2028, il va recouvrir sa liberté. Donc, aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est que c'est la réciprocité des situations. Que, selon le ministre des Affaires étrangères, c'est que le Togo est en train d'appliquer son droit. C'est la loi du Togo qui est en train d'être appliquée. Et que les informations qui ont été envoyées et reçues par le Parlement européen, c'est des gens, des organisations de la société civile qui ont envoyé pour par la suite. Donc, comme le représentant de l'Union européenne est ici, il faudrait le convoquer aussi pour l'écouter et savoir comment les choses sont passées là. Il faut une équité dans le traitement des informations. Et c'est sur ce fait qu'il a été reçu par le ministre des Affaires étrangères pour avoir des informations. Nous, selon notre analyse, c'est que nous espérons que cette rencontre qui a eu lieu, cette convocation qui a eu lieu, que les deux entités, l'État togolais et l'Union européenne, trouvent une solution à l'amiable, trouvent une solution meilleure que de faire un bras de fer.
D'accord.
Il ne s'agit pas d'un bras de fer, c'est de s'entendre et d'éviter un bras de fer diplomatique qui va porter atteinte à certaines situations. Sinon, je pense que c'est une bonne chose que lorsque un pays est accusé, que ce pays puisse entendre le représentant d'une institution qui est là pour avoir aussi pour s'entendre sur un problème, une affaire, trouver une solution d'entente.
D'accord. Je sais, est-ce que vous comprenez justement ce bras de fer entre le Togo et l'Union européenne? Parce que déjà, je posais la question à Abbas tout de suite, que, mais est-ce que déjà cette résolution n'est-elle pas justement justifiée si tant est que la Cour de la justice de la CEDEAO a déjà condamné l'État togolais alors sur cette affaire? Il y a des voix qui s'élèvent, hein, sur même d'ailleurs des détentions politiques au Togo, où Liberté qui titre ce matin, bien sûr, prison civile de Lomé, Missoudé René crie sa détresse à travers une nouvelle grève de la faim. Autre journal qui s'intéresse bien sûr au sujet, c'est le Triangle des Enjeux. Le Triangle des Enjeux qui écrit « La famille de René Missoudé, Kofi, alerte l'ONU et le Parlement européen ». Finalement, ça veut dire que c'est une réalité chez nous.
Ce sont les autorités togolaises qui veulent donner l'impression comme quoi nous sommes dans un état de droit et que par ricochet, on n'a pas le pouvoir de toucher et à tout ce qui a trait à la République. C'est l'impression. La première question peut-être que j'aimerais poser est celle de savoir si le Togo ou le pouvoir judiciaire est indépendant au Togo. Tout Togo, je dis non. Je dis non, le Togo, le pouvoir judiciaire n'est pas indépendant au Togo. À voir le déroulé des arrestations, la détention des Togolais, des détenus politiques qui sont là, dont on réclame la libération depuis un bon moment. C'est le cas Aziz Goma qui est tombé sur la table du Parlement européen et on a analysé. Qu'est-ce qui a même provoqué le courroux chez les autorités? C'est parce qu'à un moment donné, quand vous suivez les interventions des députés un à un, ben, tout semble montrer que la 5e République ou le régime parlementaire dans lequel le Togo, les pouvoirs publics ou les autorités ont basculé le Togo sans demander l'avis aux Togolais, c'est ça qui a provoqué le coup, parce qu'à un moment donné, il faut appeler un chat. Ce régime n'est pas reconnu. Le département américain a pris position. J'ai eu à échanger avec quelqu'un la fois dernière. Il est revenu.
Mais qu'est-ce que la question d'Aziz Goma avec le régime parlementaire?
Attends. Parce que quand vous suivez le déroulé des interventions des députés, ils ont révélé que le Togo n'est pas un état de droit. On a même basculé le Togo dans un autre régime sans demander l'avis du peuple. Ça vous donne toujours que c'est la question du droit qui est là. Les Togolais ont le droit, avant de changer, avant de basculer le Togo d'une république à une autre, on a le demandé l'avis des Togolais. C'est parce que les Togolais, le droit des Togolais ne sont pas respectés. C'est la question du respect des droits des Togolais qui est encore sur l'établi. Mais plus spécialement ce qui concerne Aziz Goma, ben, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est de la nationalité néerlandaise. L'Irlande fait partie de l'Union européenne. La France fait partie de l'Union européenne. L'Allemagne fait partie de l'Union européenne. L'Angleterre fait partie de l'Union européenne. Tous ces États-là ont leurs élus, leurs députés dans le Parlement européen. Maintenant, s'il y a une question qui touche la vie d'un Européen, mais le Parlement a le droit de s'en saisir. Et
c'est,
sur la
c'est
base
nationale. Hein.
De toutes les façons, il a la nationalité néerlandaise. C'est sûr.
Irlandais, Togolais.
Voilà. Donc sur cette base-là, si le Parlement européen se prononce aujourd'hui, moi je ne pense pas qu'il doit y avoir une question de on a convoqué l'ambassadeur pour quoi que ce soit. Mais Sylvestre a assez bien fait la démonstration. La Cour de justice de la CEDEAO s'est prononcée sur le sujet des détenus politiques, et spécialement également sur le cas d'Aziz Goma. Il n'a pas que seulement Aziz Goma, il y a encore d'autres. Et le code détenu, enfin, de Aziz Goma, qui devait aussi comparaître au moment où Aziz Goma était appelé à la barre ce jour-là, parce qu'il était malade, il n'a pas pu comparaître. Après quelques jours, il est décédé. Vous le savez. Vous le savez plus que moi. Il y a encore d'autres qui sont décédés par après. Beaucoup sont arrêtés aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont pris position pour dire que ça ne va pas. On les arrête. Le cas de Missoudé dont vous parlez, c'est dans un état de droit, ça? Vous nous parlez de la démocratie? Vous nous parlez d'un pouvoir qui est là et qui fait du bien et qu'on ne doit pas critiquer? D'entre nous, je vous disais tout à l'heure qu'on a plus de 20 ans de notre vie. C'est beaucoup. Donc si on est en face de une telle situation, je pense qu'on doit avoir le courage de dire la vérité. Ce régime n'est pas ricoché. Comment on appelle, le ministre qui a convoqué a eu à déclarer sur la tribune des Nations Unies que nous sommes fatigués. Les Togolais sont fatigués de ce régime. Pas seulement eux, ils sont fatigués des Européens qui disent aujourd'hui que le Togo n'est pas un état de droit. D'accord. Donc il faut prendre le problème et l'analyser comme tel. sur cette base-là, moi, je pense que tout ce que les députés de l'Union européenne ont révélé montre à suffisance le vrai visage du régime de Faure Gnassingbé aujourd'hui.
D'accord, merci beaucoup pour ce qui concerne la démocratie. Puisque vous parlez de démocratie, il y a le journal Liberté qui titre, bien sûr, sur le sujet, hein, Journée internationale de la démocratie. Le Togo, un pays qui souffre d'un déficit démocratique chronique sévère.
Ah, vous voyez.
C'est ce que.
Ah, vous voyez. C'est pas moi seul qui le dit.
Liberté écrit ce matin.
C'est pas moi seul qui le dit.
Nous allons arrêter le débat ici, oui. Mais on reviendra surtout pour le tour de table sur la question alors du TAT, et puisque nous allons donner la parole à nos auditeurs qui s'impatientent aussi à rentrer en ligne, c'est bien sûr sur le 90 86 35 35 91 36 63 75. Ils peuvent nous écrire aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57, et c'est surtout pour se prononcer sur des sujets débattus ici au Club de la Presse. Et, mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs. 93.5. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse, et maintenant nous nous ouvrons à vous. Je rappelle que nous sommes toujours avec professeur Afanvi Kosivi Agbelenko, et nous avons parlé de la journée mondiale, bien sûr, de la sécurité des patients et patientes. Et vous pouvez nous appeler sur le 90 86 35 35 91 36 63 115 pour se prononcer sur des sujets débattus ici au Club de la Presse. Premier auditeur en ligne, allô?
Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour chef.
C'est Sylvain.
Oui, c'est Sylvain.
J'espère que vous allez.
Salut tous les confrères, spécialement Sylvain, chef.
D'accord, allez-y.
Si serait un poisson dans la lagune de Tonman, il saura que l'eau froide aussi fait mal. Bon, et juste pour dire une chose, je souhaiterais qu'on trouve une diplomatie. Non pas à la GCN. Il faut que le chef de l'État même s'implique dans cette diplomatie. Pourquoi trouver quelque chose de mangeable pour les deux parties? Soit pour élargir le gars, les souffrants. Il faut qu'on trouve une diplomatie, non pas à la GCN. Il faut que le chef de l'État même s'implique. Merci.
Merci Sylvain pour votre intervention. Salut le plateau. Si nos dirigeants savent qu'ils gèrent bien le pays, pourquoi arrêter leurs concitoyens qui donnent leur avis sur la nation? J'ai honte pour mon pays, que le Seigneur nous sauve, rien ne va au pays. Depuis le matin, j'ai rien mis sous la dent, mais je suis fonctionnaire. C'est Kodzo qui nous écrit depuis Agoué. Allô?
Bonjour.
Bonjour Monsieur Gado, comment vous allez?
Ça va très bien, bonjour plateau.
D'accord, allez-y.
Bon, bien sûr que le Togo ne prenait pas de l'argent pour organiser les élections. Pour cela, l'Union européenne ne met pas sa bouche. Mais ce qui concerne les droits de l'homme, moi je vous le jure, même si le Togo ne prend pas un franc, ils vont mettre leur bouche dedans. Si ils ne mettent pas leur bouche, c'est comme si nous sommes dans une jungle. Donc je crois que le Togo doit respecter les droits de l'homme. Bonjour, bonne journée.
Merci, Monsieur Gado, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour, Pascal.
C'est monsieur?
Monsieur Alain de Kodomé.
Ah, Alain de Kodomé, allez-y.
Si nous disons que le ministre des Affaires étrangères a invité le représentant de l'Union européenne, ce n'est pas mieux. J'en passe. Hier, j'ai soulevé le problème des établissements fermés concernant le CGD de Conakry. Et votre collègue nous a rassuré que les travaux ont commencé. Il nous a donné une fausse information. Allez au CGD de Conakry. Il y a des reptiles, des souris qui courent là-bas. Il va falloir que, avant de donner une information, de vérifier aucun travaux n'a commencé au CGD de Conakry. Merci.
Merci Alain pour votre intervention. Salut le plateau. Ce n'est pas parce que l'Union européenne a participé avec des milliards pour la modernisation de la justice togolaise que leurs ressortissants sont au-dessus alors de la loi au Togo. C'est Emmanuel qui nous écrit depuis Toglekopé. Allô?
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
C'est Pélé.
Oui, c'est Pélé.
D'accord, allez-y.
Ok. Bon, en suivant l'analyse de ce que j'ai fait en ami, c'est comme le M66 est devenu la silhouette du régime RPTV en le suivant de près, en le marquant la culotte par rapport à la rentrée scolaire, on a constaté qu'il y a des forces de l'ordre qui sont dégagées parce que même si on s'y avait lancé un appel pour une année blanche. C'est ce que nous n'allons pas souhaiter. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on retourne vers nos autorités, discuter aussi sa population? C'est ça qui est très important. Parce que si nous sommes arrivés là, parce qu'il faut faire des analyses sur le terrain. Il n'y a pas de dernier pour un match de football, mais on a vu le dispositif de la sécurité aussi. On fait le constat et on constate que c'est ça qui se passe. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait une amélioration dans le pays, l'apaisement? Mais où se trouve le PC? Où se trouve le chef de l'État ou bien le président de la République, M. Sami Doctoré? Nous avons deux présidents. Il y a un président de la République et un PC, un président de conseil. Est-ce que nous allons dire des choses comme ça dans le pays? Si nous prenons la rentrée scolaire, qui a été dégagée, bon, on nous a dit que la rentrée scolaire, 7000 classes qui se trouvent. Mais quand vous faites le tour, quand le grand Lomé, c'est du désordre, c'est du désarroi.
Pourquoi, à l'appelé, oui. Pourquoi vous dites que c'est du désordre?
Oui, mais aujourd'hui, au 21e siècle, dans une classe, dans un banc, il y a 4 élèves. Il parle de l'école qu'on a fait avec des petits papas. C'est pas possible. C'est-à-dire que les enseignants souffrent. Les enseignants, au moins, ils sont seuls, ils sont dans la souffrance.
D'accord. Okay. Merci beaucoup, Pélé, puisque nous allons donner la parole à d'autres personnes. Ils sont nombreux à être en ligne pour se prononcer dans cette émission Club de la Presse. Allô?
Canal FM, bonjour.
Bonjour, Sini, comment vous allez?
Le messager de l'amour se porte très bien comme un ange.
Allez-y rapidement.
Affaire d'Abdoul Aziz. Il a droit à la dignité humaine. Les conditions de détention inhumaine et les tortures subies par Abdoul Aziz Goma violent son droit à la dignité humaine. Le gouvernement togolais devait prendre en compte cette préoccupation et agir pour améliorer les conditions de détention et garantir les droits fondamentaux d'Abdoul Aziz Goma. Merci. Bonne émission.
Merci, Océli, pour votre intervention. Allô? Allô, bonjour.
Allô?
Allô, bonjour. Allô, bonjour. Il est parti. Bonjour, chef plateau. Chaque jour, je me pose la même question. Que veulent réellement nos gouvernants? Protéger qui, sinon, leur propre privilège, tout en fragilisant la vie des citoyens ordinaires? Ils se placent en donneurs de leçons, mais interdits ou muselés. La liberté d'opinion reste leur pratique favorite. Et comme le disait Max Weber, l'État détient le monopole de la violence légitime, mais encore faudrait-il qu'il en fasse un usage juste et orienté vers le bien commun. Hélas, ici, cet usage tourne trop souvent à la domination. Que Dieu nous vienne en aide, c'est Nono qui nous écrit. Allô? Allô, bonjour. Allô?
Bonjour.
Basile, bonjour.
Ouais, comment vous allez?
Ça va, allez-y.
Salut tous les autres en studio.
Oui, allez-y.
Moi, je ne sais pas. L'Union européenne sait qu'elle peut intervenir, c'est pourquoi elle a fait. Je veux peut-être paraphraser Sylvestre, qui l'a dit déjà. Et moi, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on dit convoquer. C'est quelle convocation, rédigée par quelle institution judiciaire? On a invité la personne. Le Togo, lui, ne peut pas convoquer le Parlement de l'Union européenne. Il faut qu'on cesse ces abus de langage chez nous. Parce que vous le dites très souvent, nous sommes sur une radio de grande écoute. C'est pas ce qu'on nous fait au Togo ici. Je ne sais pas quand d'autres sont là en train de l'apprécier. Je ne sais pas s'ils sont contre leur propre personnalité. C'est à cause de ça qu'ils viennent apprécier ce genre de comportement que ce gouvernement nous a pris ici au Togo. Voilà, moi je n'ai pas grand chose à vous dire.
D'accord, merci. Merci Basile, merci pour votre intervention. Bonjour le plateau. Concernant les détenus politiques, les juges appliquent les décisions de Fornia Singbe et non lisent le droit pour une justice équitable et sociale. C'est Selom qui nous écrit. Nous allons recevoir notre dernier auditeur pour le compte de cette émission. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va bien, par la grâce de Dieu.
Votre nom c'est...
C'est Yao de Zanguera.
Ah, Yao de Zanguera. Allez-y, Yao.
Allô?
Oui, Yao, je vous écoute. Allez-y.
Allô?
Ah, Yao, je vous écoute. Allez-y.
Allô?
Décidément, Yao ne nous écoute pas. Et là, nous allons donner la chance à une autre personne. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va, c'est Ali.
Ah, Ali.
Vous nous parlez toujours de courtoisie. Oui. La paix au Togo, oui. Mais pourquoi les autres ne veulent pas être dans le même rythme que vous nous imposez? Écoutez, la prison, on ne peut pas dire que le Togo a son droit qu'il applique, que l'Union européenne l'applique, ne doit pas intervenir. Le droit international et le droit humain est inaliénable. Est-ce que je ne vous comprends pas au Togo, sincèrement. Les gens viennent pour nous dire que nous, on est extra. On peut tout faire pour nous. Personne ne peut rien dire. Ceux qui pensent comme ça, n'ont qu'à se détromper. Le Togo nous appartient individuellement. Donc, leur posture là, n'ont qu'à sortir de ça pour la paix au Togo. Et ceux qui sont en prison, ce qu'on doit leur retenir, c'est l'aller-retour, la liberté d'aller et revenir. Tout le reste, ils ont droit à ça. Mais on les néglige. Pourquoi? Je vous ai dit ça. On ne met pas quelqu'un en prison pour le détruire. C'est pour le redresser, pour le ramener sur la bonne voie. Mais c'est le contraire chez nous. On tue les gens chaque jour.
D'accord. Merci, Ali, pour votre intervention. Ali, c'est le dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission. Chers confrères, nous revenons en plateau. Vous faites un dernier tour de table avant de mettre fin justement à l'émission. J'aurais voulu vraiment qu'on se prononce plutôt sur la situation au Tchad avec cette nouvelle, avec la constitution qui a été revue justement. Et cette fois-ci, il y a la constitution qui allonge même d'ailleurs la durée du mandat présidentiel de 5 à 7 ans sans limiter le renouvellement des mandats. Oui, Sylvestre, vous voudriez bien vous prononcer là-dessus?
Non, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau en Afrique. Au Togo, en 2002, la constitution a été modifiée avec un mandat illimité. Et donc, et plus tard, nous avons modifié encore la constitution pour dire donc le compteur est à zéro. Bon, la différence entre le Tchad et le Togo, c'est qu'eux, ils sont allés dans un septennat. C'est tout. Sinon, on leur a quand même montré la voie, comment il faut modifier une constitution et dire que jusque le président de la République est rééligible. Point bas. Donc, ça veut dire qu'éternellement, il peut rester là. Et après, bon, c'est cela. On a vu que nous avions modifié la constitution ici. On a dit là, on a remis le contrat à zéro. Tout de suite, c'est la Côte d'Ivoire qui s'en est inspirée et aussi, ils l'ont fait. Donc, on donne des exemples, on donne donc on devient des modèles, entre guillemets, hein, à des gens qui le font. Donc, aujourd'hui, et là, je crois que le jeune Déby, hein, veut aussi durer au pouvoir comme son papa jusqu'à la fin. Déjà, lui, tout jeune, il est devenu déjà un maréchal. Alors que son papa a pris du temps pour prendre, donc, pour devenir maréchal, lui, déjà, il a 40 ans moins, non? Il est déjà maréchal avec tout ce qu'il porte comme, les Django. Donc, voilà, quoi. Donc, c'est triste pour l'Afrique, mais c'est cela.
Merci.
Donc,
malheureusement. Merci, Abbas.
Ça, selon leur réalité, ils ont pris. Donc, ça dépend. C'est eux qui jugent comment ça se passe. On a vu, même au niveau de la Guinée vient du Mali, où les présidents qu'on appelait Poutine sont devenus immédiatement présidents de la République et sans élection, ils peuvent continuer à aller. Donc nous sommes en Afrique et chacun dit que...
Et finalement ce sont des gens qui se donnent des mandats.
Des mandats, c'est des gens qui s'autoproclament, se donnent des mandats. Donc c'est comme ça, moi j'ai dit que c'est à la population de voir comment les choses se passent. Et ils ont pris leur décision parce que c'est eux qui sont au-dessus. Et le Parlement vient entériner pour dire que c'est comme ça. C'est pour ça qu'ils donnent le temps du Mali ou bien de la Guinée. Que c'est comme ça que les choses se passent et les gens se taisent. Les présidents ne sont pas élus, mais ils ont déjà fait un mandat de 5 ans. On leur octroie encore un mandat de 5 ans, illimité également, et que ça continue comme ça. Aujourd'hui, le Tchad aussi fait la même chose que le président. On change la constitution, mais 5 ans à 7 ans. Et de 7 ans maintenant, sans arrêt, il peut continuer jusqu'à 100 mois.
Justement, est-ce que déjà, en se faisant, est-ce que la démocratie ne prend pas un coup au Tchad?
Mais est-ce que le Tchad est un État démocratique? Que dit la Constitution, comme on l'appelle la Constitution tchadienne, au décès du maréchal Déby? Le Tchad n'est pas un État démocratique. Donc c'est la pratique des habitués de coups d'État. Donc on en a vu également au Togo. La Constitution a dit, en cas de vacance de pouvoir, aucune modification substantielle ne devait être observée sur la Constitution. On l'a fait au Togo, on a fait venir Fonia Sibé. Aujourd'hui, il a fait 20 ans. Les 20 ans que moi, je déplore aujourd'hui dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi. Et de l'autre côté, au Tchad, pareil. Déby est décédé. On a vu par quelle acrobatie. Le tour de passe-passe, son fils est arrivé. Les coups d'État qui sont opérés également dans le Sahel. Vous voyez tout ce qui se passe là. Ça n'augure en rien ce qu'on peut appeler la démocratie. Donc ça, c'est ce qui se passe au Tchad. Mais moi, j'aimerais plutôt m'apesantir sur un peu ce qui se passe chez nous au Togo. Qui m'amène à interpeller Mme Awanana Dabouya du HCRU. Parce que tel que les choses évoluent, je ne pense pas que ça augure un lendemain meilleur en ce qui concerne la réconciliation. Les informations qui me parviennent par rapport à Mme Yakadé sur le plateau, je ne pense pas que c'est la bonne information. Si on reproche quelque chose à Mme Yakadé, Marguerite, je pense que quand on dit on est dans un état de droit, la justice est là, en bonne et due forme, on lui signifie le mandat. Donc, tel que les choses se passent chez elle en ce moment où son domicile est encerclé avec tout ce qu'on apprend là, ça ne sent pas qu'on est dans un état démocratique, je déplore. Bon, j'aimerais finir en souhaitant bonne fête au peuple gay qui entre dans une nouvelle année lunaire à partir de demain avec la cérémonie de la prise de la pierre sacrée. Voilà. D'abord, nous vous invitons d'ailleurs à faire le déplacement sur Clédy Gbatcho demain pour assister à nos rituels, à nos traditions par rapport à cette cérémonie. Donc,
c'est la prise de pierre.
Oui, oui, tout est mis à votre disposition.
Seulement, il faudrait quand même que tu puisses nous rassurer.
Il n'y a pas de problème.
L'invitation,
rassure-nous que la pierre sera prise et non lancée.
Non, effectivement, vous avez soulevé un pan. Et je profite de l'occasion pour saluer au passage Prince Safoatien Mathias Folie Bébé, le régent du trône royal aujourd'hui en Pays Guin. Et qui a su calmer, rapprocher les bords. Je pense que demain, la fête sera très belle.
D'accord, merci beaucoup, professeur Afori. Nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de la fin.
Merci. Je rappelle le thème de la journée mondiale de la sécurité des patients et des patientes 2025. C'est des soins sûrs pour chaque nouveau-né et chaque enfant. Et le slogan, c'est la sécurité des patients et patientes commence dès la naissance. Merci infiniment.
Merci beaucoup, professeur Fonvi Kosivi Agbelenko. Je rappelle que vous êtes professeur agrégé de gestion des systèmes de santé, directeur du Centre d'excellence en qualité et sécurité des soins. Merci d'être passé dans cette émission. Justin Nani, merci d'être passé dans cette émission.
C'est avec plaisir.
Vous êtes journaliste et vous collaborez avec beaucoup de journaux et des radios aussi. Abbas Isaka, merci d'être passé dans cette émission. Directeur de publication du journal Le Mania Libéré. Merci Sylvestre Béni d'être passé dans cette émission. Êtes le directeur de publication du journal La Machette. Beaucoup de journaux, sont dans les kiosques ce matin. Merci à vous tous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelés aussi pour vos diverses contributions. Merci à Michel Tomega d'être au niveau alors de la technique. Jérôme Dakouta a été au niveau de la mise en ligne alors de cette émission. Je suis Pascal Ossou. Je vous retrouve demain jeudi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Weichsteiner, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Weichsteiner, la vie dorée.